vient d'être lu. On va regarder surtout aujourd'hui le verset 6 et ce que la Bible dit de la majesté préincarnée, c'est-à-dire avant son incarnation qu'avait Jésus. Tout le monde ici a une idée de la personne de Jésus-Christ. Vous avez formé cette idée depuis au début, au commencement au moins, vos parents, qui vous ont certainement communiqué leur idée de Christ, même si c'était de l'ignorer. Et puis, certainement, après, à l'école, à l'université, avec des camarades de classe, avec des amis, avec la famille, vous sentez ce que c'est les opinions courantes et actuelle de la personne, du personnage historique de Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, il y a 15 jours à peu près, Michel jouait dans le voisinage avec ses copains et un de ses copains lui a demandé pourquoi il croyait en Jésus. Et Michel a dit, bon, bien, il y a un livre. Et son copain lui dit, oui, je sais, la Bible. Mais comment est-ce que tu sais que c'est pas, que Jésus n'est pas différent que le petit chaperon rouge? Alors, quelle serait votre réponse? Quelle est votre réponse dans votre tête, dans votre esprit? Y a-t-il une différence? Et nous voyons dans ce passage ce que dit la Bible. Vous pouvez le rejeter, vous pouvez le croire. Mais j'espère que ça deviendra très clair pour nous qui est Jésus-Christ d'après la parole de Dieu. Nous avons dit la dernière fois, ça fait quelques semaines qu'on était dans ce passage, mais nous avons fait la remarque qu'on trouve ici vraiment les béabas de tout ce qu'on croit au sujet de Jésus-Christ. Et juste pour revoir un peu plusieurs choses qu'on a dit, on a vu qu'on voit la divinité de Christ dans ce passage. Sa préexistence, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, son égalité avec Dieu le Père, ainsi que sa distinction de Dieu le Père, son incarnation, sa réelle humanité, le fait qu'il était homme, sa mort volontaire sur la croix, la certitude de son triomphe ultime sur le mal et la permanence de son règne. Toutes ces choses nous trouvons dans ce passage. Et nous avons dit que nous devons prendre ce passage pour vrai, car c'est un passage historique. Ça a à faire avec l'histoire, ce qui s'est passé dans le temps. Et puis que nous devons aussi baser nos croyances de Jésus-Christ sur ce passage, car c'est un passage doctrinal. Nous devons répondre en adoration de Jésus-Christ, car c'est un passage d'adoration, c'est un hymne qui nous pousse à l'adoration. Et nous devons aussi suivre l'exemple de Jésus-Christ, c'est un passage d'éthique, où il dit « Ayez en vous ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et aussi, pour nous remettre un peu dans le texte et nous rappeler de ce que nous avons vu avant, permettez-moi de vous rappeler les étapes par lesquelles cet hymne nous prend. Nous commençons dans l'hymne avec la majesté préincarnée de Christ. Ce qui est montré dans deux expressions, regardez-les dans les versets 6, c'est ici par ailleurs où nous allons revenir tout à l'heure, existant en forme de Dieu, et puis plus tard dans le même verset, égal avec Dieu. Et puis en deuxième lieu, nous voyons la mentalité de Jésus-Christ. Hein, ceci nous est montré dans le verset 6 aussi, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé. Alors que pensait-il? Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Jésus? Est-ce qu'il revendiquait ses droits? Bien voici son état d'esprit. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et puis nous voyons troisièmement qu'il agit. Nous voyons son abaissement. Il commence à grimper l'échelle. Mais ce n'est pas vers le haut. Il n'est pas en pleine ascension sociale. En fait, on peut suivre les sept états de Jésus-Christ sur l'échelle, si on peut dire sociale, qui le descend et le descend jusqu'à ce qui a commencé dans la gloire du ciel, termine où? sur le mont du calvaire et sur une croix. Mais si c'était une auto-humiliation, si c'était une humiliation volontaire, notez que ce n'était pas une auto-exaltation. Regardez le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, l'a souverainement élevé. Le Père a agi pour lui en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, la quatrième étape est l'exaltation du Christ par son Père. Les quatre grandes étapes de cet hymne. Et nous allons retourner aujourd'hui pour regarder de plus près cette première étape. La majesté pré-incarnée de Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce important de comprendre cette majesté qu'avait Jésus, même avant son incarnation? Bien, quand je réfléchissais, j'ai trouvé au moins deux raisons. Premièrement, afin que nous puissions avoir une bonne compréhension de la vraie nature de Jésus, de sa nature essentielle, de ce qu'il était, de ce qu'il est réellement. Qui est Jésus? Si vous vous posez des questions, voilà un passage qui peut vous aider, vous éclairer. Mais dans le but de ce passage lui-même, c'est important de comprendre sa majesté qu'il avait afin que nous puissions sentir l'impact de son humiliation, de son auto-humiliation. Vous voyez, la grandeur d'un abaissement n'est pas seulement déterminée par la profondeur à laquelle on s'abaisse, mais par la hauteur depuis laquelle on s'abaisse. Vous comprenez ce que je viens de dire? Je vais la répéter. La grandeur d'un abaissement, d'une humiliation, n'est pas simplement déterminée par la profondeur à laquelle je m'abaisse, mais de la hauteur depuis laquelle je m'abaisse. Permettez-moi d'illustrer ce fait. Si vous allez en ville à Bordeaux et vous voyez un mendiant, vous n'allez probablement pas y réfléchir à deux fois. Sauf si on vous dit que ce mendiant était auparavant un prince. Hein, par exemple, le prince qui vient de se marier là en Angleterre et vous le trouvez là à Bordeaux en train de mendier. C'est un mendiant. Là, vous allez être surpris, vous allez être choqué. Martin Luther a vu beaucoup de mendiants dans son enfance, mais il y avait un qu'il n'avait jamais oublié. Luther a vu une fois à Magdebourg, en Allemagne, le prince Guillaume d'Alençon, émacié. Ce prince avait abandonné le palais et toutes ses richesses pour devenir un frère mendiant. Dans les rues, en haillant. Et Luther a dit, longtemps plus tard, il a dit, avec mes propres yeux, je l'ai vu, j'avais 14 ans à Magdebourg, je l'ai vu porter le sac comme un âne. Il s'est si usé lui-même par le jeûne et la veille qu'il ressemblait à une tête de mort, la peau sur les os. Alors, ce qui rendait cette image si frappante pour Luther n'était pas le mendiant qu'était cet homme, mais le prince qu'avait été cet homme. C'était un prince qui était le mendiant. Et ça l'a tellement frappé qu'il a pensé à ça toute sa vie. Et c'est la même chose avec Christ. Il y avait trois personnes, n'est-ce pas, qui sont mortes ce jour-là par crucifixion. Et pourtant, il n'y a qu'une seule de ces morts qui évoque l'émerveillement et l'admiration. Et pourquoi est-ce ainsi? En raison de la hauteur d'où il s'est abaissé. peut dire que ces trois hommes crucifiés ce jour-là étaient au même niveau, tous en train de l'être tués de la même façon. Mais il y avait un qui est descendu beaucoup plus que les autres pour arriver à ce point-là. Et donc pour vraiment apprécier la mort de Jésus, son humiliation, il faut d'abord comprendre d'où il vient, de la hauteur qu'il quitte pour venir sur la terre même. Et puis pour après, pour s'abaisser jusqu'à la mort. Je sais que même la naissance, nous ne parlons même pas de sa mort, de la naissance de Jésus peut être considérée comme un acte volontaire de condescendance de la part de celui qui est né. On pense pas à cela, non, on pense quand il y a un bébé qui est né, on ne dit pas « Oh, quel acte de condescendance pour le bébé !» Mais pour Jésus-Christ, même l'acte de naissance, d'arriver sur terre dans le corps d'un être humain était un acte de condescendance, c'est un acte le plus incroyable de l'histoire. Et donc ça présuppose une existence antérieure qui était infiniment plus agréable, si on veut dire, plus riche, plus belle, plus grande qu'il a connue en tant qu'être humain. Et c'est pourquoi l'auteur commence ce grand hymne. Vous voyez, quand il va parler de la condescendance de Jésus-Christ, il va dire « Ayez en vous les mêmes sentiments, Christ s'est abaissé, mais il va commencer cet hymne avec l'affirmation catégorique de sa majesté qu'il avait avant de venir sur terre. Sa majesté par excellence, on peut dire. Alors, quelle était cette majesté pré-incarnée de Christ ? Eh bien, comme je le disais avant, ceci nous est montré dans deux expressions trouvées dans le verset 6. Alors, regardez-les encore. Existant en forme de Dieu, et puis il dit égal avec Dieu. Alors, rappelez-vous que chaque ligne dans ce passage rembourse une étude attentive, sérieuse et détaillée. Et je veux vraiment que nous comprenions ces phrases. Qui sait, vous n'allez peut-être jamais entendre une autre prédication sur ce passage dans votre vie. Et peut-être, ce n'est pas une mauvaise chose pour vous, je ne sais pas. Mais je sais que c'est maintenant le temps que le Seigneur nous a donné pour le comprendre, à l'heure actuelle. Donc réfléchissons et essayons de comprendre et d'apprécier ce que nous dit la parole de Dieu concernant Jésus-Christ et de voir si nos pensées, notre esprit est bien aligné avec ce que dit la Bible par rapport à Jésus. Ici, il dit « existant en forme de Dieu ». D'abord ce mot « existant ». Ce mot a comme une partie du mot, il y a deux parties, mais une partie du mot a le mot qu'on pourrait traduire comme commencement. Donc, on pourrait le traduire comme ceci. Étant à l'origine, ou bien qu'il existait à l'origine en forme de Dieu, il désigne le maintien d'une existence antérieure. C'est-à-dire, il se rapporte à quelque chose qui était avant son incarnation, au commencement. Il existait donc avant l'étable de Bethléem. On va dire, est-ce que j'ai existé il y a 50 ans ? Non. Mais quand on parle de Jésus-Christ, la Bible est très claire qu'il existait même avant sa naissance. Hein? Existant se rapporte à ce qui était avant sa naissance. Vous savez que la Bible fait référence plusieurs fois à l'existence de Jésus-Christ avant sa mort. Dans l'Ancien Testament, pour vous donner deux exemples, il y a Michée, chapitre 5, et verset 1, qui dit, je l'ai mis ici pour que vous n'ayez pas besoin de chercher, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Vous connaissez peut-être ce prophétie, parce que c'est répété plus tard en Matthieu chapitre 2, quand les mages arrivent à Jérusalem, et même les scribes et les pharisiens du jour de Jésus savaient que ceci parlait du Messie, de celui qui allait venir. Alors, il vient d'où celui-là ? Eh bien, il dit ici dans l'origine, remonte aux temps anciens, et on peut aller plus loin que ça même, au jour de quoi? Au jour de l'éternité. Oui, il va sortir de Bethléem, oui, mais ces jours remontent à l'éternité. C'est une référence à son éternité et à sa vie antérieure à son incarnation. Il y a aussi un autre verset que nous lisons souvent à Noël. Nous voyons les natures humaines et divines sont suggérées, je crois, en Ésaïe chapitre 9, verset 5, quand il dit « Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Hein? » L'enfant, je crois, rapporte à sa nature humaine. L'enfant est né, mais le fils parle de sa nature divine. Le fils n'est pas né car il a toujours existé. Le fils est donné. Et nous avons ici le rassemblement de ces deux natures dans une seule personne. Bon, j'avoue que ce n'est pas explicitement dit, mais plutôt suggéré. Mais lisez les appellations qui viennent juste après, les noms qui sont donnés à cet enfant qui est né, à ce fils qui est donné. Et c'est très très clair. Il dit, la domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père, quoi? Père éternel. L'enfant qui est né aura comme appellation Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez notre texte en parlant de celui qui, existant en forme de Dieu, il fait référence à sa vie antérieure à l'incarnation. Est-ce que vous croyez cela? Que Jésus existait même avant son enfant. Ça, c'est la doctrine biblique par rapport à Jésus-Christ. Nous avons vu deux références dans l'Ancien Testament qui parlent de son éternité. Je ne vous donnerai que deux dans le Nouveau Testament. Trouvez avec moi Jean chapitre 8. Jean est assez facile à trouver. Plus facile que Michée ou Ésaïe. Jean chapitre 8. Il y a quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Verset 8 vers la fin. Du chapitre. Je veux que vous sentiez un peu l'autorité que Jésus assume. Nous avons déjà vu dans la lecture continue en Matthieu que David a lu tout à l'heure que Jésus prend l'autorité de condamner, malheur à vous scribes, les pharisiens, les chefs religieux, il prend sur lui l'autorité de les condamner. Regardez ce qu'il dit en Jean chapitre 8 et verset 51. Jean chapitre 8 et verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça, c'est ce que dit Jésus. Si vous gardez sa parole, si vous acceptez sa parole, vous n'allez même pas voir la mort. Vous allez passer de la vie terrestre à la vie céleste sans même voir votre propre mort. C'est incroyable. Maintenant, lui dire les Juifs, 52. Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Bon, leur attitude à part, hein, c'est une attitude de moquerie, mais leur attitude à part, c'est une excellente question. Qui prétends-tu être? Parce que ce qui compte même ce matin, ce n'est pas ce que je dis de Jésus, ce que l'autre dit de Jésus, mais ce qu'il dit de lui-même. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit de lui-même. Alors regardez sa réponse, verset 54. Jésus répondit. Qu'est-ce qu'il va dire, hein? Est-ce qu'il est plus grand qu'Abraham ou non? Est-ce qu'il va se clarifier? Il dit, bon, si je me glorifie moi-même, c'est-à-dire si j'invente tout ça, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu, donc c'est Dieu qui me glorifie. Bon, nous venons ici pour glorifier Dieu, mais Jésus, il entre dans la salle et il dit, Dieu est là pour me glorifier. Déjà, ça c'est étonnant. Lui que vous dites être votre Dieu, verset 55, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Donc je ne peux pas dire autrement. Je serais un menteur de dire que je ne connais pas, qu'il ne me glorifie pas. Mais je le connais, et je garde sa parole. Et regarde, puisque vous parlez d'Abraham, je vais vous dire quelque chose, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Hein? Abraham, il attendait mon jour. Il m'attendait. C'est pas moi qui regarde vers Abraham, c'est Abraham qui regardait vers moi. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, 57, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? C'est ridicule. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, quoi? Je suis. C'est ce que Jésus dit de lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas simplement en train de dire que ça est que son propre existence prédatait celui d'Abraham. Sinon, il aurait dit « Je suis ». Mais quand il dit « Je suis », il prend le nom de qui? Il prend le nom de Dieu lui-même, que Dieu a révélé à Moïse. Et la foule a bien compris. La foule a bien compris. Pour un simple homme, c'était un blasphème. Il méritait la mort immédiate. Donc là-dessus, regardez verset 59. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voici une des plusieurs fois où Jésus est miraculeusement protégé de la foule et de la mort, car ce n'était pas encore son heure. C'est une référence qui parle du fait que l'existence de Jésus prédatait sa naissance et qu'il était aussi divin. Et l'autre que j'aime beaucoup se trouve en Jean, 1 Jean cette fois-ci. Donc l'épître de Jean, nous avons vu l'évangile de Jean, mais la première épître de Jean qui se trouve vers la fin, juste avant, mais près de l'Apocalypse même. 1 Jean chapitre 1. Et quand Jean écrit cette lettre, il dit dans le verset 1 du chapitre 1, ceux qui étaient dès le commencement, je vais parler de ceux qui existaient dès le commencement. Et c'est un mot très particulier qui ne veut pas dire depuis, ça veut dire il existait déjà. On arrive au commencement de tous les commencements et il y avait quelque chose qui existait déjà. Donc c'est avant le commencement, dans l'éternité passée. Et ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, il parle ici du Christ incarné. Nous l'avons vu, nous avons touché ses mains, nous avons vu ses bras, nous avons vu sa tête, son nez, son corps, ses pieds. Lui, on parle de lui, cet homme. Concernant la parole de vie, il dit car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons quoi? On parle de cet homme, mais c'est la vie éternelle qui était auprès du Père. C'est-à-dire, il était avant son arrivée sur terre, il était auprès du Père. Et puis, il nous a été manifesté. Vous voyez, l'existence de Jésus-Christ
avant.
Où était-il avant sa naissance? Il était auprès du Père dans toute sa gloire. Donc, pour revenir à notre texte, quand il dit en parlant de Jésus, existant en forme de Dieu, ça fait référence à sa vie antérieure à l'incarnation. Il existait déjà. Jésus, l'homme, a eu une conception dans la Vierge Marie, n'est-ce pas? Il a eu un commencement, l'homme, Jésus. Jésus n'a pas toujours été homme. Mais le Fils de Dieu a toujours existé depuis l'éternité passée. Notez la phrase encore, mais cette fois-ci un autre mot, existant en forme de Dieu. Nous avons vu cette existence qui est antérieure à sa naissance, mais il dit que cette existence éternelle était dans une forme divine. Et c'est très important encore, hein, j'attire encore votre attention sur cette phrase, parce que c'est très essentiel que nous comprenions cette phrase en forme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus existait en forme de Dieu? Il y a plusieurs années, il n'y a que quelques-uns parmi vous qui puissent vous rappeler de Sou. C'était une étudiante coréenne qui était dans l'église il y a plusieurs années, quand j'étais adolescent. Et je me rappelle une fois, j'avais dans mon tiroir, je ne sais pas où je l'ai eu, mais j'avais un serpent en caoutchouc. Et il m'a bien servi à plusieurs reprises. Mais un jour, dans cette salle, il n'y avait pas les chaises. J'avais pris le serpent en caoutchouc et je l'avais mis ici par terre devant. Et Sou est entrée par la porte arrière. Et dès qu'elle a vu le serpent, elle a fait mieux que j'attendais. Elle a hurlé, elle a crié, elle a tourné le dos, elle a couru à dehors. Et j'ai bien rigolé. Mais après, je voulais quand même lui dire que ce n'était pas un vrai serpent. C'était qu'un serpent en caoutchouc. Mais je vous dis, il n'y a rien à faire. J'ai même pris le serpent, parce qu'il y avait la bouche ouverte. On voyait la bouche ouverte. Et je l'ai caressé sur ma joue, je l'ai mis autour du cou, j'ai dit, tu vois, c'est pas un vrai serpent, c'est ça, en fait, t'as pas besoin d'avoir peur, mais rien à faire, rien à faire. Vraiment, elle résistait jusqu'au bout, jusqu'à ce que c'était moi, hein, qui a dû finalement me dire, bon, d'accord, j'enlève le serpent, je le remets dans le tiroir. Et ce n'est que, quand j'ai fait cela, qu'elle a décidé de rentrer dans la salle. Même la vue de ce jouet l'a terrassée. Et lui rendait folle de peur. Et tout cela pour dire qu'on peut avoir quelque chose qui a un aspect extérieur, qui est la forme de quelque chose, sans être vraiment la chose. Mais j'imagine que vous avez vu au zoo, hein, j'espère pas dans votre chambre, hein, des serpents qui avaient la forme d'un serpent, et qui était aussi un vrai serpent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand il dit que Jésus existait en forme de Dieu? Vous voyez là? Est-ce que cela veut dire que Jésus semblait être quelque chose qui n'existait pas? Il n'était pas vraiment Dieu, mais il existait dans une forme divine, une forme de Dieu. Ou est-ce que cela veut dire que cette forme semble être comme la forme de Dieu, parce que c'était en effet sa vraie nature. Il était réellement Dieu. Bon, j'imagine que je connais votre réponse et quelle est la bonne. Mais je trouve si beau de voir le soin avec lequel le Saint-Esprit a régi même les termes précis utilisés dans l'Écriture. Ce mot traduit comme forme est un mot qui se réfère à l'aspect extérieur de quelque chose parce qu'elle a cette chose et elle a ce caractère interne. Elle prend une forme morphée, mais elle est vraiment cette chose. Sa référence au fait de paraître comme vous êtes en réalité. de manifester extérieurement ce que vous êtes intérieurement, ou la démonstration extérieure d'une réalité ou d'une substance intérieure. Donc il y a une relation entre les deux, ce qui est à l'intérieur et ce qui est démontré à l'extérieur. Il se réfère donc à la démonstration extérieure de la divinité de Christ avant son incarnation. La démonstration, si vous voulez, de sa gloire en tant que l'image du Père. Donc ce verset ne dit pas que Jésus existait en forme, entre guillemets, de Dieu, même si nous ne pouvons pas être certains qu'il était vraiment Dieu. Ce verset nous dit que le Seigneur avait toujours existé avec une expression extérieure qui était une véritable manifestation de ce qu'il était vraiment à l'intérieur. Bon. C'est pour nous dire que sa divinité n'a jamais été auparavant dissimulée, n'a jamais été cachée. C'était toujours vu, toujours dévoilé, toujours révélé, toujours manifesté. Donc il vient sur terre, il va prendre la forme, le verset après va nous dire, il va prendre la forme d'un serviteur, n'est-ce pas? Et il sera réellement serviteur. Mais nous allons voir que sa forme divine va être cachée, va être voilée, dissimulée même. Il va dire à ses disciples, ne parlez pas de qui je suis pendant cette période de ma vie. Il va en fait dans un sens cacher sa divinité au monde. Il va paraître comme un simple homme. Mais auparavant, il existait pendant l'éternité avec cette forme de Dieu. Il n'avait jamais caché. Bon, bien évidemment, avant l'incarnation, ce n'était pas un corps qu'il avait. Donc la forme ici ne parle pas de quelque chose visible physiquement. Certainement pas un corps physique. Mais c'est le mot morphé, ça référence à une manifestation, et ça parle tout simplement de l'apparition d'attributs externes, hein, qui sont une véritable manifestation de ce qu'il était à l'intérieur, de son caractère. Il se démontrait toujours comme Dieu. Toujours pendant l'éternité, il n'avait jamais caché ce fait. Il se démontrait toujours comme Dieu. Et c'est ici que nous devons entamer notre étude de l'incroyable auto-humiliation de Christ avec cette réalisation que jamais dans l'éternité, dans sa vie, dans l'éternité, il avait caché, voilé sa divinité. Il apparaissait aux anges, il apparaissait devant sa création, toujours en tant que Dieu et rien d'autre. Notre texte nous dit que Jésus existait éternellement dans une forme divine. Il existait avant son incarnation même, en forme de Dieu et depuis toujours. Et je veux vous montrer quelqu'un qui l'a vu dans cette forme glorieuse. Si vous retournez à Jean, peut-être vous y êtes déjà, l'évangile de Jean. Non, on est allé à 1 Jean, maintenant on revient à l'évangile de Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean et chapitre 12. L'évangile de Jean est chapitre 12. Je vais vous montrer quelqu'un qui l'a vu dans cette forme glorieuse. Jean 12, 39, verset 39. Jean est en train de parler de l'incrédulité de la foule, de fait qu'il ne croyait pas en Jésus. Pourtant, il va dire, il y a quand même parmi les chefs, même plusieurs qui ont cru en lui. Mais le verset 39 nous dit « Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, et je suis au Jean 12, verset 40, et il cite maintenant Ésaïe. Ésaïe a dit, citation, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient les yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Fin de citation en verset 41. Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il a vu quoi? Sa gloire. Et qui parle là de qui? De lui. C'est qui lui? Verset 42. Cependant, même parmi les chers, plusieurs crurent en lui. Donc il parle de qui ici? Hein, d'abord, c'est qui le lui qu'Ésaïe a vu? Vous voyez, plusieurs ont cru en lui parmi les chers. Il parle de qui? C'est l'évangile de Jean, mais ça parle, on parle de qui dans cet évangile? de Jésus-Christ. Hein, nous sommes tous d'accord? Vous avez suivi cela? Vous voyez? Il a vu, verset 41, il a vu sa gloire et il est venu à parler de lui. Il pense à Jésus parce qu'il dit après plusieurs ont cru en lui, ils ont cru en Jésus. Donc, Jean est en train de nous dire que qu'Ésaïe a vu la gloire pré-incarnée, bien sûr, parce qu'on parle de 700 ans avant, pré-incarnée de Jésus-Christ. Alors la question, quand est-ce qu'Ésaïe a vu sa gloire? Quand est-ce qu'il a vu la gloire de Jésus? Eh bien, selon ce texte, c'est lorsqu'il, quoi? Parla de lui. N'est-ce pas? Quand a-t-il parlé de... Regarde, Ésaïe est seul lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Nous sommes d'accord là-dessus? Alors on se demande la question, donc, on se pose la question, quand a-t-il parlé de Jésus? Et le verset 40 est une citation, donc on va trouver d'où il puise cette citation. Et en fait, ça vient, peut-être vous avez dans la marge de votre Bible que c'est une citation qui vient d'Ésaïe chapitre 6 et verset 10. Donc trouvez dans vos Bibles, Ésaïe chapitre 6 et verset 10, et moi je vais vous relire le verset 40, pour que vous voyez que c'est vraiment la citation. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il dit sa gloire et qu'il parle de lui. Donc Ésaïe, dans l'Ancien Testament, chapitre 6 et verset 10, nous dit ceci. Rend insensible le cœur de ce peuple, c'est Dieu qui parle à Ésaïe, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et qu'il ne soit point guéri. Donc c'est une citation de l'Ancien Testament de ce verset. Et alors Jean nous dit que c'était lors de cette occasion qu'Ésaïe a vu la gloire de Jésus, l'homme juif du premier siècle, l'homme que tout le monde reconnu a aimé à Bethléem. Et Jean dit, il a vu sa gloire et il a parlé de lui à cette occasion. Il a vu la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'a-t-il vu? Exactement. Ben, reprenez le verset 1. Ésaïe chapitre 6 et verset 1 pour voir ce qu'Ésaïe a vu. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les deux temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, verset 5, malheur à moi, je suis perdu. Alors je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu, regardez-le, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, dans toute sa gloire et son puissance. Et j'en dis, c'est l'homme de Nazareth qui l'a vu. Il existait en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. Celui qu'Ésaïe a vu est celui qui est venu sur terre. Et s'il y a encore une question dans l'esprit de quelqu'un, alors la deuxième expression dans notre texte, pour revenir en Philippiens, qui est parallèle à la première, devrait être la réponse finale, où il dit que Jésus était égal à Dieu. Verset 6, Philippiens 2, 6, « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Hein, pas que Dieu égale le Fils. Non, ce sont deux personnes, mais il était égal avec Dieu. Ce mot fait référence, hein, d'une égalité entre deux choses. Christ existait auparavant en forme de Dieu, mais pas d'un demi-dieu, comme disent certains. Pas d'un Dieu en dessous de l'autre Dieu. Non, sa forme de Dieu était une forme égale avec Dieu le Père. Il y avait cette égalité. Il existait dans une position d'égalité à Dieu, car il était véritablement Dieu. Et de même que le Père a reçu l'adoration des anges, de même le Fils, comme nous voyons les uns ici. Vous savez que cet homme, Jésus, qui est né dans une pauvre écurie, qui est mort sur un arbre infâme, est l'Éternel, le Dieu des dieux. Il faut bien comprendre que Jésus-Christ, même quand il est devenu homme, il n'a pas perdu son égalité avec Dieu. En devenant homme, il n'a pas réduit sa divinité. Il n'est pas devenu demi-homme pour devenir demi-dieu pour devenir demi-homme. Il est devenu 100% homme, mais il est resté 100% Dieu. Et je veux que vous le voyez encore. Je sais que je vous demande de tourner beaucoup, mais comme je vous dis, c'est peut-être la seule fois qu'on peut souligner toutes ces choses. Mais en Jean chapitre 5, nous revenons encore à l'épître de Jean. Si vous ne l'avez pas trouvé la première fois ou la deuxième fois, j'espère que vous la trouverez la troisième fois. Évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, cette fois-ci, chapitre 5, et verset 17. Encore les mots de Jésus, Jean 5, verset 17. C'est pour souligner le fait que Jésus n'a pas perdu son égalité avec Dieu, même après son incarnation. Jésus leur répondit, Jean 5, 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même, c'est quoi le mot qui suit ? Égal, c'est le même mot grec que nous avons vu en Philippiens 2. Se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 23, afin que tous honorent le Fils comme, c'est-à-dire avec égalité, de la même façon qu'ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, en fait, n'honore pas le Père. Il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais a passé de la mort à la vie. Voyez, votre vie éternelle dépend sur votre compréhension et vue de Jésus-Christ. Il a dit ici, si vous acceptez ma parole, ben je vous donne la vie éternelle, sinon je ne vous la donne pas. En vérité, verset 25, pardon. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, il partage la même puissance, le même honneur, même si la puissance et l'honneur du Fils proviennent du Père, parce qu'ils ont cette relation de Père à Fils. Père au Fils, bien sûr. Mais il partage ses mêmes puissances et l'honneur aussi. Il y a un beau passage dans Matthieu 16. Vous trouvez Matthieu 16, le premier des évangiles, le premier livre du Nouveau Testament. Jésus, verset 13, nous dit de Matthieu 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et Matthieu 16, verset 14, nous dit qu'ils répondirent, « Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et ils auraient sans doute pu continuer hein, avec d'autres appellations qu'on donnait à Jésus à cette époque-là. Mais verset 15, Jésus leur interrompt et dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit. Alors arrêtez un moment là sur le verset 16. Hein. Imaginez, si vous pouvez, Pierre, probablement un trentenaire, se tourne vers un autre homme qui doit avoir une trentaine d'années, un homme d'à peu près son même poids, son même taille, avec une barbe comme lui, des sandales comme lui. Rien à l'extérieur qui nous dirait que c'est quelqu'un de spécial ou de exceptionnel plutôt. Et il lui regarde et il dit, tu es le Messie, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, une appellation qui faisait référence à sa divinité. Et Jésus, verset 7, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ah, et tous ceux qui peuvent le dire avec lui sont heureux aussi. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, vous devez demander à Dieu de le révéler à votre cœur, de vous convaincre de ces choses. C'est lui qui doit le faire. Car Jésus-Christ est Dieu. C'est incontournable, la Bible le dit. Hein, Jean 1:1, ce qui dit, au commencement était la parole, et la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En Romains 9, verset 5, un verset que j'aime, il dit le Christ, au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Le Christ, et puis il l'appelle Dieu béni éternellement. En Colossiens 1, 19, il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, demeure en lui. C'est-à-dire toute la plénitude de Dieu lui-même demeure en Jésus-Christ. Et Tite, chapitre 2, verset 13, dit que la manifestation de la gloire du grand Dieu est notre Sauveur Jésus-Christ. Et la grammaire grecque là, nous force à dire que c'est la même personne. Le grand Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est appelé le grand Dieu. Jésus dans la Bible est accordé des titres divins, comme Je suis, Jean 5, Jean 8, 58, le Fils de Dieu, Marc 1, 1. Il est attribué des attributs divins, lui donner des attributs divins comme l'éternité, Jean 8, 58, ou l'omnipotence, Matthieu 8, 26 et 27, ou l'autorité suprême, Matthieu 28, 18. Jésus est aussi crédité d'œuvres que Dieu seul peut faire, comme la création, Jean 1, 3, le pardon des péchés, Marc chapitre 2, verset 1 à 12, le jugement de tous les hommes, Jean 5, verset 22 et 23. Et puis nous voyons Jésus en train de volontairement accepter l'adoration des hommes, comme en Matthieu 28, 17, ou Jean 20, 28, ou Apocalypse 5, 12 et 13. Alors savez-vous ce que c'est un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut montrer du doigt Luc, chapitre 2, verset 12, il parle d'un enfant, un simple enfant, emmailloté, et couché là dans une crèche, une mangeoire, et dire, c'est le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut trouver Luc 23, il parle de ces trois hommes qui sont crucifiés là sur trois croix, sur ces collines en dehors de Jérusalem, et il peut attirer l'attention sur l'homme au milieu de ces trois hommes, et il peut dire, celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est l'Éternel des armées. C'est le Seigneur. C'est mon Sauveur. C'est quelqu'un qui, volontairement, dans sa vie actuelle, d'aujourd'hui, il peut s'agenouiller devant le Seigneur. Il peut confesser de sa langue que Jésus-Christ
et Seigneur, comme dit plus tard Philippiens 2, à la gloire du Dieu le Père.
Ça, c'est un chrétien. Il sait qui est Jésus. Il sait qui est Jésus, qui était Jésus, qui sera Jésus, qui a toujours été Jésus.
Et alors, c'est intéressant, non, que c'est là où il commence, où Paul commence, ce récit de l'humiliation de Jésus. Dans toute sa gloire et son égalité avec Dieu le Père pendant l'éternité passée. C'est là où il commence. Mais regardez pour terminer ce que nous verrons plus tard, où il va délibérément, volontairement aller. C'est là où il commence. Et où est-ce qu'il va terminer? Verset 8. À la croix. La mort. Mais pas n'importe quel genre de mort non plus. Parce que certaines personnes meurent dans le confort de leur lit, avec leurs proches qui les entourent, avec des médicaments qui pour atténuer la douleur. Mais regardez sa mort. Même la mort de la croix. Alors, regardez où il commence, hein? Et puis, regardez où il termine, où il se met. Quel abaissement stupéfiant. Comme nous dit un de nos chants, le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, c'est de lui qu'on parle, hein, le Créateur, la vie immortelle, le Fils de Dieu, le Roi du Ciel. Oh, c'est une grâce qui n'est pas infinie. Qui, lui, là, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour lui meurt. Amour divin. Le Roi des Rois. Pour moi. Se donne sur la croix. Ça, c'est un étonnant amour. C'est ça qui nous pousse, j'espère, à adorer, à glorifier le Seigneur. Comment peut-il qu'un être immortel souffre à ma place et pour moi meure? Alors cette semaine, quand quelqu'un vous irrite, quelqu'un vous fâche, pensez à ce que Dieu a laissé pour vous et ayez en vous les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus-Christ. Vous vous inclinez devant sa majesté. Avez-vous l'adoré pour sa grandeur? Vous savez, la descente infinie, on peut dire, hein, dans la forme d'un serviteur et puis sa mort sur la croix ne peuvent être comprises qu'à la lumière de sa majesté divine qu'il avait avant son incarnation. Et c'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean que l'amour consiste non point en ce que nous aimons Dieu. Pour beaucoup de personnes, la religion, c'est ce que je fais pour Dieu, c'est mon amour pour Dieu. Non, dit Jean. L'amour ne consiste point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est l'image la plus belle, la plus merveilleuse de toute l'histoire, de toute l'éternité de ce que c'est l'amour. À peine, peut-être, la Bible dit, ça pourrait se faire qu'un homme meure pour un ami. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, ennemis, rebelles, loin de lui, il a envoyé son Fils pour mourir. Alors pourquoi est-ce que vous le repoussez? Pourquoi est-ce que vous dites non, 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 je ne veux pas de lui? Pourquoi, je vous demande, s'il a fait telle chose pour nous? Dieu nous aime, regarde ce qu'il a quitté pour être notre sauveur. Seigneur, merci pour ce grand amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous. Nous voulons être sensibles à cela. Nous voulons répondre en adoration et en humiliation nous-mêmes.
nous ne le méritons pas. Pas de tout. Prions que tu ouvres chaque cœur présent ici, les yeux de chacun et chacune, pour voir la grandeur de Jésus, son humiliation pour nous et son amour qu'il a démontré sur la croix. Amen.